Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h sur l'ensemble de nos 85 radios partenaires. Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à ce journal. Voici les titres. Vers une paix durable, quelle action de l'Union africaine pour la sécurité, le genre et le développement durable en Afrique? C'est le thème d'un symposium organisé hier en prélude à la Journée de l'Afrique. Les femmes de Menaka déplorent les conséquences de l'insécurité sur leurs activités. Elles souhaitent l'aide de l'État et de ses partenaires. Le dossier de la semaine s'intéresse à l'artisanat. Des artisans se tournent de plus en plus vers les nouvelles technologies au détriment du savoir-faire traditionnel. Juliette Koulibaly est à la présentation. La mise en onde est assurée par Gagny Kanté. Un symposium a été organisé hier à l'école de maintien de la paix sous le thème « Vers une paix durable, quelle action de l'Union africaine pour la sécurité, le genre et le développement durable en Afrique ?» Selon les organisateurs, ce colloque a pour objectif d'approfondir la réflexion sur les questions cruciales qui affectent la paix et la sécurité sur le continent et sur celles qui freinent son développement. Il entre dans le cadre de la célébration de la journée de l'unité africaine prévue ce 25 mai. Nous en savons plus avec Ziadata Maïga.
Pour colonel Souleymane Sangaré, directeur général de l'école du maintien de la paix, l'Afrique est aussi confrontée à de nombreux défis, dont les conflits armés qui entravent sa stabilité et son développement. Selon lui, ce forum a pour objectif de faire l'état des lieux des avancées de l'UIA sur les questions de paix et proposer des solutions pour une meilleure intégration africaine.
Il s'agira de déterminer le rôle du genre dans la consolidation de la paix, d'identifier l'apport des organisations sous-régionales dans l'atteinte des objectifs de l'Union africaine. Il est impératif de promouvoir des solutions locales aux conflits les mieux adaptés. L'Union africaine s'engage à promouvoir un développement économique inclusif et durable qui bénéficie à toutes les couches de la société.
Pour faire face aux défis de paix et de développement en Afrique, les participants proposent de renforcer la cohésion sociale entre les communautés, l'implication des femmes et des jeunes dans le processus de la paix et la mutualisation des efforts entre les pays africains.
Il faut d'abord circonscrire les menaces, unir les communautés.
Il faut qu'on intègre les femmes dans tout le processus de paix pour préserver cette stabilité en Afrique.
Il faut qu'il y ait la communion. Il faut qu'il y ait une communication entre les États de l'Afrique. La jeunesse a un rôle crucial à jouer dans cette situation de paix et de sécurité.
Pour le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, la réalisation de la paix et le développement en Afrique passe par la mise en place de grandes instances régionales cohérentes. Le symposium a été marqué par des tables rondes sur plusieurs thématiques.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Autre actualité de ce journal, les travaux de la 24e édition du Forum de Bamako ont démarré ce jeudi 23 mai. Cet espace d'échange et de rencontre est un lieu de réflexion de haut niveau sur les maux qui minent le monde, en particulier le Mali. Cette édition est placée sous le thème « La culture comme facteur de paix, de réconciliation et de développement ». Les activités se dérouleront durant 3 jours. Des experts sont venus de divers horizons pour participer à ce forum. Moussa Malé Sissoko était à la cérémonie d'ouverture.
Cette 24e édition du Forum de Bamako se tient alors que le monde est frappé par des guerres. Pendant ce temps, les jeunes sont dévorés par l'océan sur les routes migratoires. Ces propos sont tenus par le président de la fondation du Forum de Bamako lors de l'ouverture de l'événement. Abdoulah Koulibaly estime qu'il est temps de sortir de cette atmosphère de feu, de sang et de larmes.
Il est plus bénéfique de nous focaliser sur les solutions de sortie de cette atmosphère. Nous avons foi en la capacité de sursaut. Sommeil en chacun de nous. Nous croyons au génie humain de faire éclore les lumières de la raison, de l'esprit et de la culture, une orientation pour nos échanges que nous souhaitons durant ces 3 jours.
Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme pense que le thème choisi est en phase avec les priorités actuelles du pays. Selon Andogoli Guindo, la culture demeure l'outil le plus efficace pour préparer les esprits à cultiver durablement la paix.
Par les temps brumeux que traverse notre nation, le riche patrimoine culturel dont dispose notre pays demeure une ressource inestimable pour réguler les tensions, juguler les crises, de sorte à assurer en permanence un climat de paix et de concorde. Une identité culturelle malienne commune et liée par un destin commun.
Des panels sur des thématiques bien définies sont inscrits au programme. Des dîners de débat et des projections de films sont aussi prévus. Des recommandations sont attendues à l'issue des travaux.
Il est 8h passées de 5 minutes à la radio Adar FM de Menaka. La crise que vit le pays a beaucoup impacté les activités des femmes de Menaka. Elles sont nombreuses, les femmes dont les activités sont à l'arrêt. Elles passent le clair de leur temps assises dans leurs ateliers à attendre des clients qui ne viennent pas. Avec la rareté des partenaires pour d'éventuels financements, elles arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Mohamed Agh Issafetan, notre correspondant sur place, a fait un tour chez certaines d'entre elles. Voici son reportage.
Malgré les difficultés, les femmes constituent un moyen essentiel dans l'économie de la région de Menaka. L'insécurité que vit la région a sérieusement joué sur leurs activités. Rachata Oulatarab est la présidente de l'association Acharal, dont l'activité principale est la vente des perles. Là-bas, les chiffres d'affaires a considérablement chuté.
Avant la crise, on vendait pour 5 000 francs par jour. Ensuite, le jour de la foire, nous vendons au moins pour 250 000 francs.
En 2010, un groupement d'associations avait ouvert une entreprise pour la transformation du lait. Cette laiterie traverse des difficultés. Adjetou Walat Annabi est la présidente.
On a quelques batteries, vraiment, ça ne fonctionne pas beaucoup. On travaille avec nos petits moyens, mais sans lait de vache pour le moment. Donc la crise, elle nous a touchés, elle a touché notre lit.
Madame Meiga Yahra Meiga dirige une association spécialisée dans les petits commerces. L'inaccessibilité au phare pour écouler les produits constitue la principale difficulté.
On travaillait bien avant, mais depuis le début de la crise, nous avons d'énormes problèmes. Tout est bloqué. Les routes sont devenues inaccessibles. Plus de commerce. Les gens sont assis et ne font rien. Si on te dit qu'on n'est pas fatigué, nous avons menti.
Mohamed Agh Issafetan, Menaka, Studio Tamani.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Place maintenant à notre dossier de la semaine. L'artisanat constitue un des piliers fondamentaux de la culture au Mali. Cependant, bon nombre d'artisans à Bamako et à l'intérieur du pays utilisent des techniques modernes pour revêtir leur savoir-faire en vue d'accroître leurs revenus. Par contre, d'autres préfèrent garder les anciennes méthodes pour sauvegarder le savoir-faire traditionnel. Quels sont les défis et les avantages de la coexistence entre l'artisanat moderne et traditionnel? La réponse à ces questions dans notre dossier de la semaine signé Ramatou Haïdara.
Au cœur de la capitale, dans les Halles de Bamako, Nestor Diarra, sculpteur, est en pleine activité dans son atelier. Sur place, l'odeur du bois se mêle au bourdonnement des machines électriques. Comme bon nombre d'artisans, Nestor intègre des techniques modernes à son travail pour enrichir son savoir-faire et innover ses créations.
Auparavant, pour la sculpture, nous travaillions avec des outils traditionnels. Maintenant, nous avons impliqué les meules à main. Il y a aussi d'autres outils comme les perceuses électriques. Pour le polissage, nous utilisons des ponceuses électriques.
À travers cette manière de faire, Nestor accroît également ses revenus, car la dite technique contribue à développer ses productions.
Nous essayons de donner plus de moyens au travail pour encore accroître notre production, parce que plus la commande est grande, plus on a besoin d'autres techniques pour pouvoir progresser vite.
Mais tous les artisans ne partagent pas cette approche. Hamey Agh Mohamedoun est un exemple. Le jeune bijoutier âgé de la trentaine préfère la méthode classique. Pour lui, il est indispensable de maintenir la valeur patrimoniale de l'artisanat traditionnel.
Actuellement, il y a des machines qui facilitent le travail à certains artisans. Mais personnellement, je préfère confectionner mes œuvres artistiques à la main. C'est une technique que mes parents m'ont appris et je transmettrai ce savoir-faire à mes enfants.
Garder l'originalité du savoir-faire traditionnel, c'est ce que prône aussi Amadou Diallo, traditionnaliste de Koulikoro. Il estime que l'intégration de nouvelles techniques peut défavoriser la pratique du métier traditionnel.
Pour moi, le fait d'intégrer des techniques modernes dans l'artisanat risque de rendre obsolètes les techniques traditionnelles et cela tue le savoir-faire des artisans. Il est vrai que ça les aide à accroître leur productivité, mais je pense qu'il est important de préserver les techniques traditionnelles.
Trouver un équilibre entre les méthodes anciennes et modernes dans l'artisanat représente un défi de taille, selon les observateurs. Cependant, beaucoup d'artisans estiment que l'avenir de cette industrie dépend de la capacité à combiner ces deux approches.
C'est ce dossier sur la modernisation de l'artisanat qui met fin à cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Gagne Kanté assurait la technique. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Toutes nos productions sont également disponibles sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Ne décrochez surtout pas juste après le magazine Tous les enfants du Mali. Vous aurez la version Bamanankan avec Aïssata Jara. Les enfants ont une passion extrême pour les jouets et pour preuve, il suffirait d'amener votre enfant dans un magasin de jouets pour voir son regard s'illuminer. À cet effet, les spécialistes font savoir que les jouets stimulent le sens des enfants et contribuent à leur santé mentale. Et pourtant, des parents sont réticents à l'idée d'acheter régulièrement des jouets aux enfants. Alors, est-ce que ces objets sont importants pour le développement de l'enfant? C'est le thème du magazine Tous les enfants du Mali et c'est une réalisation de Khalifa Goïta et Fantachek Sanogo.
Bercer un enfant avec un jouet lorsqu'il plaire est l'une des méthodes utilisées dans de nombreuses familles ou toute autre personne. Ces outils de divers types, qu'ils soient passifs ou actifs, se transforment en inséparables amis pour chaque enfant qui en possède. Des enfants rencontrés à Kai et Mopti confirment cette assertion.
Je suis de Kai, j'ai une poupée. Je m'amuse avec en l'habillant. Je lui prépare quelque chose et lui sers à manger.
Mon père m'a offert un pistolet. Je m'amuse avec un tir.
J'ai un avion, une poupée et un chien. Si tu appuies sur les boutons du chien, il saute. J'aime ça.
Alors qu'en pensent les parents? Acheter un jouet pour son enfant, est-ce normal ou pas? De Yoroso à Bamako, les avis sont mitigés.
Quand tu fais un jouet pour les enfants, ça leur rend plaisir aussi. Même moi qui est le père aussi content.
J'achète plus des jeux éducatifs dans le sens éveil d'esprit. J'achète pas de pistolets ni certains jeux agressifs.
J'achète les jouets pour que mes enfants n'envient pas ceux de leurs camarades.
Je leur paye pour qu'ils ne puissent pas se promener inutilement.
Les jouets, ça doit être périodique. Quand l'école est là, c'est pas la peine. Les vacances quand même, c'est bien normal.
Les vendeurs de ces objets sont visibles dans les marchés, ronds-points, aux grandes voies, entre autres lieux. Des détaillants se frottent bien les mains car ces articles sont prisés par la population.
Ce sont les jouets de construction et les voitures à commande qui sont les plus achetés pour les garçons. Pour les filles, ce sont des jouets qui leur apprennent à préparer. J'arrive à gagner quelque chose.
Les gens achètent beaucoup les poupées et les pistolets, je gagne bien.
Beaucoup de gens exercent ce métier maintenant. Cela a réduit nos chiffres d'affaires.
Ici, nous sommes dans une école maternelle à Sikasso. Dans cette ambiance au quotidien, la monitrice Madame Dao Aïseta Sanogo assure l'apprentissage et le bien-être des enfants. Le jouet est l'un de ses principaux outils de travail. Elle affirme qu'il facilite la compréhension aux enfants des préscolaires.
On a des différents jouets, les jouets didactiques, symboliques, dramatiques ou les jouets d'imitation. Comme un pédagogue disait, l'enfant apprend en jouant et s'amuse en apprenant. Donc les jouets jouent un rôle très important dans l'éducation de l'enfant, pour ne pas dire dans la vie de l'enfant même.
En clair, il s'agit de comprendre que tous les jouets peuvent avoir un rôle dans la vie du bébé ou du jeune enfant. Ils contribuent à leur développement global à plusieurs niveaux pour bien grandir, selon le psychologue Salif Tembine.
Le jeu permet la découverte des objets de la nature, développe les aptitudes physiques et les aptitudes intellectuelles, psychiques. Le jeu permet à l'enfant de s'affirmer, se faire entendre, se valoriser, d'exprimer sa joie. Ainsi, le jeu procure à l'enfant le sentiment de vaincre les émotions, la douleur, la peur.
Il est aussi primordial de bien choisir les jouets pour enfants. Mais attention, ces accessoires peuvent être souvent source d'inconvénients pour leur vie, ajoute le psychologue Salif Tembine.
Le choix des jeux, tenir compte d'abord du genre, puis de l'âge de l'enfant. Si l'enfant n'est pas en classe, il est en train de jouer, il peut être exposé aux dangers tels que les blessures. Des jeux vidéo peuvent entraîner des comportements oppositionnels, des problèmes de sommeil. L'écran limite les interactions avec les autres.
Mais en conclusion, afin d'assurer un bel avenir aux enfants, des observateurs encouragent donc les parents à veiller sur les enfants lorsqu'ils jouent.